Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Afrique 7 jours, au micro Fréjus Kenhomme et Marie-Ange Pierron. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Fréjus.
Fidèles auditeurs, merci de nous rejoindre dans ce magazine. Au programme, un reportage sur les Afrikaners. La dernière tribu blanche d'Afrique du Sud se bat pour protéger son identité. Nous verrons comment. Ensuite, l'Afropresse, le rendez-vous avec la presse allemande, Marie-Ange.
Effectivement Fréjus, et nous parlerons aujourd'hui du Soudan du Sud, du Rwanda et une nouvelle fois du parc des Virunga dans l'est du Congo.
Afropresse dans la seconde partie de ce magazine. Voilà pour le sommaire d'Afrique 7 jours. Le 27 avril 1994, il y a 20 ans, les Sud-Africains noirs, indiens et métis ont pu voter pour la première fois. L'ANC a remporté les élections et Nelson Mandela est devenu le premier président noir du pays. Les Afrikaners, qui avaient imposé le régime d'apartheid pendant presque 40 ans, ont perdu le pouvoir. Ils se sont détournés de la politique pour se réinvestir dans le domaine culturel, comme le montre notamment le succès des films en langue afrikaans. Un reportage de notre correspondant à Johannesburg, Valérie Hirsch.
Un extrait de Binelanders, une série en afrikaans qui draine 500 000 téléspectateurs chaque soir sur une chaîne payante, soit un afrikaner sur cinq. Cette série qui se passe dans un hôpital évite d'aborder les sujets politiques qui fâchent, comme l'explique Ernst Swart, chargé de la communication chez Stark Films, le studio qui produit Binelanders.
Yeah, I think people get angry.
Oui, je pense que les gens sont mécontents de la politique et des autres problèmes du pays sur lesquels on a parfois l'impression de n'avoir aucun contrôle. Je pense que les séries essaient de leur dire « Vous êtes OK, vous ne vivez pas si mal ». Il y a toujours beaucoup de choses dont on peut rire ou pleurer. C'est un peu un exutoire. Et je pense que cela les aide à se souvenir d'où ils viennent et le long et dur chemin que nous avons parcouru pour arriver là où nous sommes maintenant.
Les Afrikaners affichent une extraordinaire créativité. Ainsi, une vingtaine de films en afrikaans sortent chaque année, plus qu'en anglais. Les romans policiers d'auteurs afrikaans comme Deon Meyer connaissent aussi un énorme succès. Tout comme les films, les livres sont surtout un moyen d'évasion de la réalité. Johannes Meiberg est un journaliste afrikaner.
La vaste majorité, c'est aussi de l'évasion. Les gens, ils prennent en charge ce que c'est d'être africain aujourd'hui. Mais il y a une peur de confronter l'apartheid et la responsabilité qu'ont les Blancs ou les Afrikaners dans ce passé. Ceci dit, ils commencent à questionner les autorités d'autrefois. Ce que c'était d'être un patriote, un nationaliste, c'était des valeurs très importantes pour les Afrikaners. Et ici, maintenant, les gens commencent à se demander est-ce que le gouvernement avait raison, est-ce que l'Église avait raison. Moi, je pense que c'est un bon début. Ça fait 20 ans après la fin de l'apartheid, c'est encore très, très récent. J'aurais voulu que les gens questionnent plus notre passé problématique, mais ça a besoin de temps pour arriver. Comme la France avec l'Algérie, ça a pris du temps.
La minorité afrikaners veut préserver sa langue, mais aussi retrouver sa fierté, alors qu'elle se sent injustement persécutée. Nick Grape est chanteur, acteur et réalisateur de films.
En tant qu'Afrikaners, nous avons une longue histoire de persécution. Aujourd'hui encore, ce sentiment existe chez la vieille génération, surtout avec les meurtres de fermiers. Pour la jeune génération, il s'agit plutôt de repartir à zéro. Le passé n'existe pas. Donc eux non plus ne veulent pas voir ce qui s'est passé sous l'apartheid. Pour les jeunes, maintenant nous sommes tous des amis. Noirs et blancs, on est des amis. Ils ne disent plus « je ne peux pas décrocher un emploi parce que je suis blanc et afrikaans », mais plutôt « arrêtons de nous plaindre et agissons pour bâtir notre avenir ».
Retour sur le tournage de Binelanders, l'un des acteurs, Reinhard Hugo, 27 ans, exprime les souhaits de cette nouvelle génération.
Je veux agir pour une Afrique du Sud meilleure. Les Noirs doivent nous accepter comme nous sommes. Nous devons trouver une façon de travailler ensemble. Nous devrions faire un effort pour connaître leur culture et leur langue.
Les Afrikaners ont une formidable capacité à rebondir en serrant les coudes, mais il leur faudra encore du temps pour qu'ils acceptent de confronter les démons du passé. À Johannesburg, Valérie Hirsch pour la Deutsche Welle.
Afrique 7 jours, la seconde partie, avec un tour d'horizon maintenant des thèmes africains que vous avez relevés cette semaine dans la presse allemande, Marie-Ange. Et vous nous proposez tout d'abord le Soudan du Sud, un pays à feu et à sang depuis maintenant 4 mois.
Et cette guerre civile, qui est déjà en soi une catastrophe, inspire ce titre à la Süddeutsche Zeitung, une catastrophe annoncée, entendez par là la famine qui menace. On pourrait déjà réserver maintenant, écrit le journal, les galas de charité à la télévision pour le mois de novembre, de même que les vols charters pour les humanitaires. Comme l'explique Jürgen Gier de l'Agro-Action allemande, normalement, à cette époque de l'année, en avril donc, les nombreux petits paysans dont la production alimente la majorité des 9 millions d'habitants se rendent sur les marchés pour y acheter des semences avant que la saison des pluies ne commence et rende les routes impraticables. Ils se dépêchent de mettre ces semences en terre pour qu'elles puissent lever avant que les réserves constituées au début de l'année ne s'épuisent en novembre. Mais cette année, poursuit le journal, rien n'est normal. Depuis le début des combats entre forces gouvernementales et rebelles, c'est la peur de massacre qui règne au Soudan du Sud. Personne ne songe à semer, les champs sont vides. La famine, prévisible, pourrait être encore pire, selon les experts, que celle de 2011 en Somalie. La Deutsche Zeitung de Zurich, donc en Suisse, évoque quant à elle un désastre oublié. En dépit de prétendues négociations de paix à Addis Abeba, le conflit ne fait que s'aggraver. Il est douteux que l'ONU puisse rappeler à la raison les responsables des deux camps en les menaçant de sanctions. Le président américain Barack Obama a déjà envisagé des mesures punitives sans que cela ait un quelconque effet. Et des réactions trop dures, estime le journal, pourrait même se révéler contre-productive si, par ricochet, les protagonistes n'avaient plus rien à perdre.
Et le délégué du gouvernement allemand aux droits de l'homme, Christoph Stresser, vient de séjourner au Soudan du Sud. Il craint le pire.
C'est ce qu'il confie dans une interview à la Süddeutsche Zeitung. « Je crains, dit-il, que la communauté internationale joue les spectateurs. Il y a des possibilités d'intervention. Ce que j'ai vu me remplit d'effroi. » Christoph Stresser plaide notamment pour un accroissement du nombre d'Allemands, actuellement une quinzaine, présents dans la force de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS. Il ne s'agit pas, souligne-t-il, d'envoyer des soldats à la guerre, mais d'empêcher un massacre, un génocide.
Vous parlez de génocide et cela fait penser au Rwanda. Les cérémonies officielles de commémoration du génocide de 1994 sont terminées. La période de deuil se poursuit jusqu'au début juillet. Et c'est un article extrêmement dur pour le régime rwandais, Marie-Ange, que livre cette semaine la presse allemande.
Le ton est donné déjà dans ce titre relevé dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, système de non-droit au Rwanda. Alors quand on arrive au bout de l'article, on se rend compte qu'il s'agit en fait de la lettre d'un lecteur envoyé d'Oxford en Grande-Bretagne. Voici ce qu'il écrit. « Le génocide au Rwanda est et reste une tragédie. Le fait que les Nations Unies et certains pays aient fermé les yeux pour ne pas être entraînés dans un deuxième Mogadiscio est l'un des chapitres les plus sombres de l'organisation internationale et de la diplomatie en Afrique. Il est néanmoins étonnant que personne ne fasse mention du système de non-droit érigé au Rwanda avec l'aide des Occidentaux dans les 20 ans qui ont suivi le génocide des Tutsis. Sous la présidence de Paul Kagame, les droits de l'homme sont piétinés, les adversaires politiques sont neutralisés ou au besoin assassinés avec la bénédiction de l'État. Ces pratiques sont à juste titre critiquées lorsqu'elles concernent d'autres pays comme la Chine, la Biélorussie ou le Congo. Or, depuis 1994, le Rwanda est littéralement inondé d'une aide au développement fournie sans condition.
La presse allemande avait évoqué la semaine passée l'attentat dont a été victime le directeur du parc des Virunga, Emmanuel de Merode. Il semble qu'il ait à présent de bonnes chances de guérir de ses blessures, mais la presse Marie-Ange revient avec de longs articles sur ce parc des Virunga situé dans l'est de la République démocratique du Congo.
Et la Süddeutsche Zeitung Fréjus rappelle par exemple que nulle part sur le continent africain, la biodiversité n'est aussi grande que dans ce parc. Mais, souligne le journal, qui veut protéger la nature dans le parc d'Ivirunga risque sa vie. 140 gardiens ont été assassinés au cours des 20 dernières années. Leurs 380 collègues continuent malgré tout de travailler. Emmanuel de Mérode veut instaurer le droit et l'ordre dans un espace de non-droit chronique. Il est aidé en cela par un policier allemand, une vétérinaire suisse et, depuis peu, par 7 chiens qui pistent les braconniers et retrouvent aussi les touristes ou rangers égarés. Deux de ces chiens, nous apprend le journal, sont des épagneuls dressés à chercher de l'ivoire et des armes et capables de flairer une balle de fusil dans un sac de haricots. Les 5 autres chiens sont des chiens de Saint-Hubert, une race élevée dès le 7e siècle comme chien de chasse dans les Ardennes en Belgique. L'hebdomadaire Der Spiegel évoque de son côté le combat entre le directeur du parc et la société pétrolière britannique Soco, qui a obtenu une concession de prospection de 7500 km², dont la moitié située dans le parc d'Ivirunga. Emmanuel de Mérode voudrait faire du parc le moteur économique de la région, car lorsque les humains, dit-il, vont bien, ils protègent aussi les animaux. La société Soco, elle, veut à tout prix chercher du pétrole dans l'une des zones protégées les plus fragiles du monde, écrit Le Spiegel.
Merci beaucoup Marie-Ange pour l'Afropresse. Et c'est la fin de ce magazine Afrique 7 jours que nous vous remercions d'avoir suivi. Sachez que vous pouvez nous donner votre point de vue sur le reportage concernant les Afrikaners d'Afrique du Sud qui cherchent à se maintenir sur le plan culturel. Et pour le faire, il suffit de nous envoyer un SMS au numéro suivant, le 0049 176 64 12 12 63, ou un courriel à français@dw.de. Gardez votre position d'écoute sur Radio Deutsche Welle. C'était Marie-Ange Pierron et Fréjus Kenhomme sur Afrique 7 jours.